Commerce.
Et le journal de 6h vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Comment vont nos forêts françaises? C'est le dossier d'Europe 1 ce matin en partenariat avec Le Pèlerin. Sur la carte, les trois quarts de nos forêts sont privées, des réserves naturelles menacées par les coupes rases.
Un phénomène tantôt nécessaire, souvent abusif, qui consiste à supprimer entièrement une parcelle d'arbres de la cime jusqu'au sol.
Et à la place, les propriétaires privilégient souvent une seule espèce d'arbre pour un plus grand rendement de la filière bois. Et tant pis pour la biodiversité. Face aux industriels, des associations se mobilisent, comme au Mans où des militants ont guidé en forêt notre reporter Mathieu Limongi.
Une départementale en plein milieu de la Sarthe, autour une forêt verdoyante qui masque le soleil. Mais quelques kilomètres plus loin, les arbres ont laissé place à un paysage désertique.
Et ça n'a pas repoussé depuis. Le sol est jauni. On va tourner, on va aller voir.
Sylvain Agerand est ingénieur forestier et coordinateur des campagnes pour Canopée, une association qui milite pour une sylviculture plus durable.
Alors ici, on est vraiment sur une situation qui est très pédagogique. On est dans une forêt d'un des principaux représentants de la filière bois. Tout a été rasé. Il n'y a plus un seul arbre sur plusieurs dizaines d'hectares. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les souches des arbres ont été déracinées. Tout l'écosystème est cassé.
L'arbre le plus souvent replanté, c'est le Douglas, un résineux qui pousse vite, facile à travailler et donc très prisé des industriels.
Quand vous remplacez une forêt diversifiée par une monoculture de Douglas, vous aggravez le changement climatique. Quand vous rasez une forêt, vous libérez d'un seul coup tout le carbone qui était stocké dans les arbres et dans le sol. Et le pari qui est fait, c'est de dire c'est pas grave, on va replanter, les arbres vont repousser. Sauf que le deuxième problème, c'est que ces jeunes arbres, ils sont mis en plein cagnard et bien souvent, ils meurent.
Et quand ces arbres meurent, certaines parcelles devenues non rentables sont même parfois abandonnées par leurs propriétaires.
Le reportage de Mathieu Limongi, envoyé spécial près du Mans pour Europe 1. 6h02, l'amertume, la colère et même la tristesse, un réveil douloureux pour les salariés de l'usine Vallourec de Saint-Saulve dans le Nord. Le groupe a annoncé hier la fermeture du site.
104 personnes vont perdre leur emploi d'ici la fin de l'année. L'usine où l'on fabrique des tubes n'est plus assez rentable, en tout cas selon la direction qui supprime au total 320 postes en France.
Une annonce redoutée par les salariés 2 ans après le dernier plan social. Frédéric a 42 ans, il a passé près de la moitié de sa vie dans l'usine de Saint-Saulve.
On s'y attendait, mais c'est le coup de massue, quoi. C'est forcément le coup de massue et c'est compliqué à gérer, quoi. Puis le nombre de familles impactées derrière, c'est énorme, quoi. Là, je crois qu'on nous a annoncé en tout 320 personnes. C'est pas rien, quoi. C'est 320 familles, plus à côté, des prestataires sur le côté qui sont impactés aussi. Donc, ça a de lourdes conséquences pour tout le monde, quoi.
Comment la direction justifie-t-elle cette décision?
Entre ce qu'ils expliquent et ce que nous on pense, ils veulent plus de Vallourec en Europe, quoi, clairement. À terme, ça va être ça, on en est convaincus. Hein. Moi, je pense vraiment que parce qu'on coûte trop cher, enfin, à leur dire.
Qu'est-ce qui compte maintenant?
Partir avec un plan, avec ce qu'on mérite, avec le nombre d'années qu'on a passé ici. Et puis, derrière, retrouver du travail rapidement, quoi. On veut pas rester comme ça. Le chômage, c'est pas une option pour nous.
Le témoignage de Frédéric au micro de notre correspondant Lionel Gougelot. Plus de 300 emplois supprimés en France, 3000 à l'échelle de l'Europe. Bercy demande au groupe de minimiser, je cite, les conséquences de ce plan social sur les activités françaises.
Un dossier qui fera partie des priorités du futur gouvernement qu'on devrait connaître d'ici demain.
À Matignon, les consultations se poursuivent. Dîner hier soir entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Autour de la chef du gouvernement, une équipe a priori resserrée qui pourrait être annoncée aujourd'hui avant un conseil des ministres demain. La première ministre passera ensuite son week-end dans le Calvados où elle se présente pour LREM aux législatives.
La majorité présidentielle talonnée par la NUPES, l'alliance de la gauche.
Oui, la nouvelle Union populaire qui se réunit d'ailleurs aujourd'hui à 11h à Paris pour présenter son projet de gouvernement en cas de majorité le soir du second tour. C'est en tout cas l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, même si dans ce combat, le leader insoumis semble bien seul, Alexis de la Fontaine.
Oui, que ce soit Roussel, Jadot ou Hidalgo, les perdants de la gauche à la présidentielle se font bien discrets. Anne Hidalgo, de retour par la petite porte à la mairie de Paris, espère reconquérir sa majorité municipale après le naufrage de sa campagne. Ses rares prises de position nationales ciblent l'union de la gauche ou soutiennent les candidatures dissidentes comme Lamia et Larage. Pour Jadot, c'est la traversée du désert, tacle un écolo. Le député européen, muet depuis sa défaite, est persona non grata dans la NUPES. Jadot ne va pas soutenir Mélenchon et les insoumis ne veulent pas de son soutien, résume un de ses proches. Fabien Roussel joue quant à lui un jeu dangereux. Investi par la NUPES, il dénonce le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Tahabouafs. S'attirant les foudres des insoumis, son ego n'est pas redescendu depuis la présidentielle, tacle un cadre. Bref, ses amis ne cherchent pas vraiment à l'aider.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Et à 6h05 sur Europe 1, on part aux Antilles. Les Antilles avec ce bouleversement dans le quotidien des Français ultramarins. L'opérateur Free s'installe et casse les prix.
Oui, une dizaine d'euros désormais pour un forfait téléphone, disponible donc aux Antilles, aussi en Guyane. Un prix réduit qui devrait soulager le porte-monnaie de la population. Notre correspondant, Florin Aussu, a tendu son micro au Martiniquais, une île où, comme dans l'Hexagone, l'inflation galope.
Payer 60 euros un forfait téléphone chaque mois, c'est juste plus possible. Donc oui, j'attendais la venue de Free avec impatience.
Avec un salaire de 1400 euros par mois, Muriel est obligée de surveiller de près chaque poste de dépense incompressible. Et c'est bien pour proposer une alternative que Free joue la carte de l'offre agressive des tarifs 6 fois moins chers que ses concurrents. Véronique fait partie de ces Martiniquais dont le pouvoir d'achat ne fait que baisser. Alors forcément, elle aussi sera intéressée.
L'essence coûte presque 2 euros le litre, la nourriture coûte de plus en plus cher, ça augmente chaque mois, les prix des billets d'avion aussi. Donc si au moins on peut économiser sur le téléphone, c'est déjà ça.
Des économies, oui, mais pas à n'importe quel prix. Steve, père de famille, n'est pas sûr de se laisser tenter.
Il faut vraiment voir aussi la qualité qu'ils vont proposer, parce que payer 10 euros par mois, c'est clairement une belle affaire, mais il faut que le réseau soit bon, qu'on puisse capter partout en Martinique, sinon ça vaut pas le coup, quoi.
Dans un territoire où 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté, l'arrivée d'un opérateur low cost pourrait malgré tout changer la donne. À Fort-de-France, Florin Aussu, Europe 1.
Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal complet.
Il est 6h05.